La venue du Consolateur. Sermon prononcé le 15 mai 1633, jour de Pentecôte. Texte biblique, Évangile de Jean, chapitre 16, versets 7 à 11. Il vous est expédient que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra point. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, pour ce qu'il ne croit point en moi. De justice, pour ce que je m'en vais à mon Père, et vous ne me verrez plus. De jugement, pour ce que le prince de ce monde est déjà jugé. Chers frères, ayant bu ce matin à la table du Seigneur de ce même esprit dont les saints apôtres furent autrefois miraculeusement baptisés en un pareil jour, que saurions-nous faire de plus convenable que de considérer attentivement de quelle source nous est venue cette liqueur divine et par quelle vertu les cieux ont été ouverts afin que de ce sanctuaire éternel elle coulât sur la terre et quels sont enfin les effets qu'elle a produits. C'est précisément ce que Jésus-Christ nous apprend dans les paroles que nous avons lues pour être, s'il lui plaît, la matière de cet exercice. Car en voyant ses chers disciples infiniment affligés de ce qu'il leur avait dit qu'il les quitterait bientôt pour s'en retourner au Père, afin d'adoucir leur ennui, il leur représente que, quelque fâcheux que leur fût son départ, il leur serait néanmoins utile et avantageux. Et pour fonder une proposition si étrange en apparence, il ajoute que son départ fera descendre le Saint-Esprit du ciel sur la terre, l'unique consolateur nécessaire tant pour leur consolation que pour la conviction du monde, de façon qu'à bien le prendre, ils avaient plutôt sujet de souhaiter cette séparation que de la craindre. Ainsi, voyez-vous qu'il leur apprend premièrement la cause de l'envoi et de la venue du Saint-Esprit en l'Église. C'est le départ de Jésus-Christ. « Si je ne m'en vais, dit-il, le Consolateur ne viendra point, et si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Il nous enseigne en second lieu les effets ou l'ouvrage de ce Saint-Esprit quand il sera venu. L'un qu'il les consolera, car il dit qu'il est le Consolateur, l'autre qu'il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Ce sont les trois points que nous méditerons en cette action pour en tirer les fruits qui nous y sont présentés. Quant au premier, le Seigneur, par son départ hors du monde, entend deux choses, savoir premièrement sa mort et puis son ascension au ciel, car alors il quitta tout à fait la terre et ce monde visible pour n'y plus retourner qu'au dernier jour quand il viendra juger les vivants et les morts. Il dit donc que s'il ne s'en va, c'est-à-dire s'il ne meurt et ne se retire même dans le ciel, le Saint-Esprit ne viendra point. Car la venue de l'Esprit étant le plus grand des bénéfices de Dieu envers les hommes et le comble de ses dons, il n'était pas possible que le Père le donnât sans que sa justice fût satisfaite et sa bonne grâce gagnée par un sacrifice parfait. Et d'autre part, il n'y avait, comme vous le savez, ni de satisfaction capable de contenter la justice de Dieu, ni de sacrifice valable pour gagner sa bonne grâce, autre que la mort de son Fils Jésus. Certainement, il n'était donc pas possible que le Saint-Esprit vînt sur la terre si Jésus ne fût mort et ne s'en fût allé hors du monde. Et quant à son ascension dans le ciel, la seconde partie de sa retraite hors du monde, il est pareillement évident que sans elle, le Saint-Esprit ne fût point venu en l'Église, car il n'y pouvait venir que par le don et par l'envoi de notre médiateur, auquel il a été premièrement donné pour être dérivé de lui comme de sa source en tous les fidèles. Or, le Christ n'a reçu en qualité de médiateur toutes ces grandes richesses de la main du Père pour nous les communiquer qu'après être entré dans le vrai sanctuaire, non fait de main d'homme, c'est-à-dire dans le ciel. Il faut donc aussi avouer que s'il ne fut monté au ciel, le Saint-Esprit ne fut point venu sur la terre. Mais, dit le Seigneur, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voici donc l'ordre vrai et légitime de toute cette dispensation. Jésus-Christ, par sa mort, a premièrement mérité les trésors des grâces divines, que l'Écriture appelle les dons du Saint-Esprit. Par son ascension, il les a reçus effectivement de la main du Père pour les distribuer aux siens. Il les a acquis en mourant. Entrant dans le ciel, il en prit possession et ensuite il les envoya à ses apôtres. Car par sa mort, il apaisa la colère du Père, satisfaisant pour les peines que nous aurions méritées, et ouvrit par ce moyen le trésor où étaient renfermées les eaux de la grâce divine, autant ce qui les empêchait de s'épandre sur les hommes, à qui sans cela Dieu avait une inclination naturelle de les communiquer. De plus, la mort du Seigneur fut une obéissance si excellente et si pleine de toutes les merveilles d'un grand et infini amour tant envers Dieu qu'envers les hommes, et qu'elle gagna toutes les affections du Père et réjouit ses entrailles, et lui fut agréable que pour témoigner le plaisir qu'il y avait pris, il donna au Christ pour lui et pour les siens tout ce qu'il y a de plus cher et de plus précieux, son esprit et l'empire de tous les siècles et l'immortalité. Et en un mot, comme dit Ésaïe, l'éternité. L'apôtre nous l'enseigne divinement. Jésus-Christ, étant en forme de Dieu, s'est anéanti soi-même, ayant pris forme de serviteur, fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme, il a été obéissant jusqu'à la mort, voire la mort de la croix. Pour laquelle cause Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 9. Les types et les oracles anciens l'avaient aussi prédit. Car ce rocher qui abreuva le vieil Israël dans le désert et qui était Christ, comme dit l'apôtre, ne vomit ses eaux miraculeuses, la vie et la consolation de l'ancien peuple, qu'après avoir été frappé de la verge de Moïse, pour vous montrer, fidèles, que votre rocher éternel, Jésus, la source de votre salut, devait être frappé de la malédiction de la loi, la verge mystique de Moïse, pour vous communiquer ses eaux célestes, c'est-à-dire son esprit, qui nous est représenté, comme vous savez dans les Écritures, sous la figure et sous le nom de cet élément. Tous les prophètes font semblablement marcher les souffrances de Christ, sa croix et sa mort, devant sa gloire, dont l'envoi du Saint-Esprit est la première et la plus magnifique partie. David, pour n'en point alléguer d'autres, prédit expressément qu'il montera en haut et fera des prisonniers avant que de prendre des dons pour les distribuer aux hommes, c'est-à-dire avant que d'envoyer son Saint-Esprit sur la terre. Mais ici s'élèvent deux difficultés qu'il nous faut résoudre. L'une, contre ce que nous avons dit, que Jésus-Christ reçut du Père et la plénitude de l'Esprit et l'empire de l'éternité lorsqu'il fut entré dans le ciel. Car puisqu'il est un même Dieu avec le Père, n'avait-il pas l'Esprit et la gloire de toute éternité? Mais la réponse est aisée. Le Seigneur Jésus se considère en deux façons. Ou à l'égard de sa personne, ou à l'égard de sa charge, ou en tant qu'il est fils de Dieu, ou en tant qu'il est médiateur entre Dieu et les hommes. Au premier égard, j'avoue qu'il a toujours eu le Saint-Esprit, procédant de lui aussi bien que du Père, et qu'il a toujours eu la gloire et l'empire. Mais en tant que médiateur, vous voyez bien qu'il y a eu certains degrés en sa dispensation, car il s'est premièrement abaissé, et puis il a été élevé. Il a premièrement combattu, et puis il a été couronné. Ici donc, nous le considérons en tant qu'il est notre médiateur, qui, par le mérite de ses souffrances, a acquis le droit de dispenser cette plénitude de l'Esprit qui était de toute éternité en lui. Et à cet égard, nous disons que pour avoir ce droit, il a fallu qu'il s'en allât hors du monde, c'est-à-dire qu'il mourût premièrement, et puis qu'il monta au ciel. L'autre difficulté est contre ce que nous avons dit, selon l'enseignement du Seigneur, que le Saint-Esprit ne pourrait venir sur la terre tant que le Christ ne s'en fût allé. Car si cela est, il s'ensuit, me direz-vous, qu'avant le départ du Christ, c'est-à-dire avant sa mort et son ascension, le Saint-Esprit n'était venu ni sur les apôtres, ni sur aucun autre fidèle. Mais, chers frères, bien que cela semble étrange et incroyable, si est-ce qu'il ne faut point craindre de le dire, puisque saint Jean le dit en paroles expresses. Le Saint-Esprit n'était point encore donné, pour ce que Jésus-Christ n'était pas encore glorifié. Évangile de Jean, chapitre 7, verset 39. Certes, nous accordons volontiers que les fidèles qui vivaient avant l'ascension du Seigneur étaient participants du Saint-Esprit. Autrement, comment eussent-ils cru? Comment eussent-ils aimé Dieu et leurs prochains? Comment eussent-ils joui de quelque paix et consolation dans leurs âmes? Leur vie et leurs paroles témoignent assez clairement qu'ils avaient senti l'efficace de cette lumière divine. Nous confessons donc qu'ils ont eu l'Esprit en quelque façon. Mais à cela, nous ajoutons deux choses. L'une, que ces rayons qu'ils en ont touchés leur ont été et acquis et donnés par le bénéfice de ce même Jésus-Christ qui nous en a donné la plénitude au dernier temps et qui est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Car s'il ne se fût interposé dès le commencement entre Dieu et les hommes, prenant sur soi l'expiation de nos péchés et promettant devant le tribunal du Père de mourir un jour pour nous, jamais ni les Israélites ni aucun autre homme n'eussent reçu de Dieu ni l'esprit de sanctification et de consolation, ni aucune autre grâce, quelque petite qu'elle soit. C'était sa mort et son ascension future qui leur acquéraient cette bénédiction, de sorte qu'à leur égard, il était aussi nécessaire que le Christ s'en allât, puisque si quelque jour il n'eût dû s'en aller, ils n'eussent jamais reçu aucune portion de l'Esprit. Mais je dis en second lieu que l'Écriture, et ici et souvent ailleurs, entend par le Saint-Esprit non la mesure de lumière et de grâce qui était donnée aux fidèles sous l'Ancien Testament, mais l'abondance et la plénitude qui en a été répandue dans l'Église depuis l'ascension du Seigneur au ciel. Car c'est une façon de parler assez ordinaire dans l'Écriture, de dire que les choses sont lorsqu'elles paraissent et se manifestent, et de ne leur attribuer le nom de ce qu'elles sont que quand elles font clairement reconnaître ce qu'elles sont. Comme par exemple, saint Paul enseigne qu'avant la prédication de l'Évangile, la foi n'était pas encore venue. Épître aux Galates, chapitre 3, verset 25. Et ailleurs souvent, que l'Évangile avant ces derniers temps était inconnu aux hommes, que Dieu ne l'avait manifesté à aucun. Non qu'en effet, il n'y eut aucun degré de foi ni aucune révélation de l'Évangile en l'Église avant la venue et la glorification de Jésus-Christ, mais parce que ce que les fidèles en savaient alors était si peu de choses au prix de ce que le Seigneur nous en a appris que, dans cette comparaison, il est compté pour rien. Il donne le nom de la foi et de l'Évangile à cette dernière mesure de foi et de révélation seulement. Ici donc, tout de même, ces divins auteurs appellent la venue du Saint-Esprit cette dernière manifestation seulement, où il parut et se communiqua aux hommes en une mesure si grande que l'on n'avait jamais rien vu de semblable auparavant. Mais, me direz-vous, pourquoi le Saint-Esprit ne pouvait-il être communiqué à l'Église en cette dernière mesure si le Christ ne s'en était allé, comme il avait jusqu'alors communiqué les prémices et les commencements de son esprit à ses disciples, en vertu de sa mort et de son ascension future? Qui est-ce qui l'empêchait de leur en donner aussi dès lors l'abondance et la dernière main en la même sorte, sans les quitter pour cela? Chers frères, quand bien ces choses n'auraient été ainsi disposées que par la seule ordonnance de Dieu, toujours serait-ce assez pour dire que l'une ne pouvait être si l'autre n'eût été auparavant. Car le Seigneur lit souvent ensemble par l'arrêt de sa volonté des choses qui, d'ailleurs, n'ont entre elles aucune conjonction ni dépendance naturelle. Il avait, comme nous l'avons touché, et prédit par ses prophètes, et figuré par ses types, que le Christ mourrait et monterait dans le ciel avant que de donner à l'Église l'abondance et comme la plénitude de son esprit. Il fallait donc de nécessité que la chose s'accomplit en cette manière et en cet ordre. Il fallait par conséquent que le Christ s'en allât afin que le Consolateur vînt. Autrement, comme dit ici le Seigneur, il ne fut point venu, puisque la volonté du Père était que le départ de l'un fît place, si je l'ose ainsi dire, à la lumière et à l'abondance de l'autre. Mais outre ce décret de Dieu, diverses raisons de la part des choses mêmes requéraient que cette abondance de l'Esprit ne fût communiquée à l'Église qu'après l'ascension du Seigneur dans le ciel. Car premièrement, l'une des fins pour lesquelles le venait le Saint-Esprit était pour abolir le service de Moïse qui consistait en la lettre et pour apprendre aux hommes à adorer Dieu en esprit et en vérité, qui est notre raisonnable service. Or, cela ne se pouvait faire pendant que le Christ a été sur terre, parce qu'il était ministre de la circoncision, comme saint Paul nous l'enseigne, et qu'il s'est assujetti lui-même en cette qualité au service légal. Cette sujétion, faisant partie de l'obéissance qui lui était convenable pour exercer ce sien ministère envers les Juifs. Il est donc évident qu'il a fallu attendre qu'il eût achevé son œuvre sur la terre et qu'il se fût retiré au ciel pour donner le Saint-Esprit à l'Église en sa plus haute et plus abondante mesure. Puis après, le Saint-Esprit est venu pour manifester pleinement aux hommes le moyen de leur salut et pour leur découvrir les abîmes de l'amour de Dieu envers eux et pour les assurer entièrement de la bienheureuse immortalité. Or, la principale démonstration dont il s'est servi pour nous persuader ces choses, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ, sans laquelle ces mystères demeuraient couverts de ténèbres, et il ne nous serait pas possible d'en bien comprendre la vérité. Afin donc que l'enseignement du Saint-Esprit fût clair et efficace, il a fallu que le Seigneur souffrit et qu'il montât au ciel et qu'il accomplît les choses que le Saint-Esprit nous voulait enseigner, n'ayant rien qui nous les montre et les fasse entendre plus vivement que les faits mêmes de leur accomplissement. Ajoutez encore à cela que le Christ étant le premier-né d'entre ses frères et les prémices des morts et le commencement de la créature de Dieu, c'est-à-dire le patron et l'exemplaire et non seulement la cause, l'auteur et le prince des fidèles, il a fallu qu'il fût consacré et assis sur le siège de sa gloire avant que le Saint-Esprit communiquât à aucun autre la perfection de sa grâce. Puis donc que le Christ n'a pu être consommé et parfaitement consacré ailleurs que dans le ciel, il a fallu qu'il s'y montrât avant que le Saint-Esprit descendît sur terre. Davantage, le Saint-Esprit est venu cette dernière fois pour purifier nos cœurs de toutes les passions terrestres et pour leur donner des affections purement spirituelles. Or, si le Christ fut demeuré sur la terre selon la chair, notre amour envers lui eût eu quelque chose de terrestre et eût été semblable à la tendresse et à la passion que nous avons pour nos pères, pour nos princes et pour nos amis selon la chair, et comme vous le voyez par l'exemple des apôtres qui eurent pour le Seigneur une affection de cette nature pendant qu'il fut ici-bas avec eux. Pour donc épurer leurs âmes de tout point, et leur faire dire en vérité, nous ne connaissons personne selon la chair, même encore que nous ayons connu Christ selon la chair, toutefois maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. 2e Épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Il a donc été à propos que le Saint-Esprit attendit que le Seigneur Jésus fût monté au ciel avant que de venir en l'Église. Enfin, pour ne pas étendre ce discours davantage, le Saint-Esprit étant le sceptre de la gloire et de la puissance royale de Jésus-Christ, il n'a pas été convenable qu'il le fît paraître dans le monde avant que d'avoir été couronné et assis sur le trône. Et cela ne s'étant fait, comme vous le savez, que lorsqu'il est monté dans le ciel, il est évident qu'il n'était donc pas convenable que le Saint-Esprit se manifestât plus tôt. Ainsi, voyez-vous combien est véritable en toutes sortes ce que le Seigneur nous apprend en ce lieu, que son départ est tellement la cause de la venue de son esprit que s'il ne s'en fût point allé, le Saint-Esprit ne fût pas venu. Et de là, paraît combien est étrange et contraire à la raison la prétention de ceux qui veulent que Jésus-Christ soit encore ici-bas sur terre selon la chair. Car si cela est, il faut donc dire que le Saint-Esprit n'est pas venu. Il faut dire que nous sommes encore sous les faibles rudiments du monde et que nous connaissons encore le Seigneur selon la chair. Mais surtout, jugez, je vous prie, combien est absurde et choquante contre la vérité la cause qu'ils allèguent de cette présence corporelle de Christ qu'ils prétendent si opiniâtrement. Car ils disent qu'il vient ainsi vers nous ici-bas pour nous communiquer son esprit, et les plus estimés de leur parti en parle de sorte qu'à les entendre, vous diriez qu'il ne soit pas possible à Jésus-Christ de nous livrer ses grâces sans être lui-même réellement présent selon la chair dans notre bouche et dans notre estomac. Mais voici le Seigneur qui dit, tout au contraire de cela, que s'il demeurait sur la terre avec nous selon la chair, son consolateur, la plénitude de tous ses biens, ne viendrait pas à nous. Si je ne m'en vais, il ne viendra point, dit-il. Puis donc qu'il nous donne ses grâces et son consolateur en la Sainte Seine, il faut conclure tout au rebours de ces gens que sa chair n'y est donc pas présente en sa substance. En effet, c'est une manière d'agir beaucoup plus noble et plus magnifique et plus digne d'une majesté pareille à la sienne, d'être, quant à lui, là-haut assis dans les cieux sur le trône de sa gloire, et de là cependant envoyé, comme il dit ici, l'esprit de sa sainteté dans tous les lieux de l'univers, et de livrer à ses sujets par sa lumière toutes les grâces dont ils ont besoin, réellement et effectivement, que si à chacune de leurs nécessités il descendait lui-même ici-bas, ne pouvant leur faire part de ses biens sans abaisser sa nature dans notre boue et sans la mêler avec les choses mortelles et corruptibles. Cette dernière façon d'agir, ressentant l'infirmité des causes naturelles et encore des plus basses, s'en trouvant quelques-unes comme le soleil, la vraie image de Jésus-Christ, qui agissent en des lieux dont leur substance est très éloignée. Mais revenons à notre sujet, et ayant désormais vu la cause de l'envoi du Saint-Esprit, considérons-en maintenant les effets. Ils sont de deux sortes, selon la différence des sujets où il agit, les uns qu'il produit en l'Église, les autres qu'il opère dans le monde. Le Seigneur ne représente pas ici les premiers expressément, mais il les comprend pourtant secrètement dans le nom de consolateur qu'il donne au Saint-Esprit. « Si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur », dit-il. Considérons donc le sens et la valeur de ce mot, et nous apprendrons suffisamment les effets du Saint-Esprit, tant en la personne des apôtres qu'en tous les autres fidèles. Le nom de « paraclet » dont le Seigneur s'est servi en cet endroit et que nous avons traduit par « consolateur », bien que grec d'origine, a aussi été en usage parmi les Juifs, comme il paraît par leurs anciennes expositions et paraphrases de la Bible, où il se trouve quelquefois employé. Ils s'en servent pour expliquer un mot hébreu, « melitz », qui signifie proprement « un homme qui parle bien et agréablement », s'exprimant avec facilité et en bons termes, et en telle sorte que non seulement il enseigne et persuade de ce qu'il dit, mais de plus encore donne du plaisir et de la satisfaction à ceux qui l'écoutent. D'où vient que ce nom signifie « et un docteur et un consolateur », celui qui nous enseigne et celui qui nous réjouit et nous console. Le Seigneur, donc, appelant ainsi le Saint-Esprit, qu'il promet à ses apôtres, signifie qu'il leur rendra deux offices. Premièrement, qu'il les enseignera, leur découvrant et persuadant diverses vérités salutaires, de la connaissance desquelles ils avaient nécessairement besoin pour l'administration de leur charge. Et c'est ce qu'il leur dira expressément ci-après, que cet esprit les conduira en toute vérité et leur dira tout ce qu'il aura entendu et leur annoncera des choses à venir. Jean, chapitre 16, verset 13. Et ailleurs encore qu'il leur rendra témoignage de lui. Secondement, il montre par ce nom que le Saint-Esprit adoucira l'amertume de leurs ennuis, affermissant leur cœur et y répandant sa paix et sa joie au lieu de la tristesse dont ils étaient alors saisis. Ce sont les deux principaux effets de l'Esprit de Dieu dans les âmes et des apôtres et de tous les autres fidèles. À raison du premier, le Seigneur l'appelle l'Esprit de vérité et consolateur à l'égard du second. Le fruit de son enseignement, c'est la foi et toute la sanctification qu'elle produit dans nos cœurs. Le fruit de la consolation, c'est la paix et la joie qui y sème et y entretient malgré tous les maux qui nous environnent. Ces deux fruits, comme vous voyez, comprennent toute la nature du nouvel homme et remplissent tout le royaume de Dieu qui n'est autre chose, comme l'apôtre nous l'apprend, que justice, paix et joie. Mais bien que l'Esprit déploie ces deux sortes d'actions généralement dans tous les fidèles, n'ayant pas un qu'il n'enseigne et ne console, puisqu'il n'est pas possible ni d'avoir communion avec Jésus-Christ sans la foi, la sanctification et la joie, ni d'avoir ces parties-là autrement que par la grâce du Saint-Esprit, si est-ce qu'il les déploya dans les apôtres à qui notre Seigneur parle en ce lieu, d'une façon et dans une mesure beaucoup plus excellente qu'il ne fait dans les autres serviteurs de Dieu. Quant à l'enseignement, il leur découvrit immédiatement lui-même, dans sa seule lumière, tous les mystères du royaume céleste qu'ils avaient ignorés jusque-là. Car bien qu'ils sachent et crussent fermement que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, comme ils le confessèrent expressément, néanmoins, ils ne savaient pas encore quelle est la nature de son règne, quelle la forme de son salut et la manière de sa rédemption, comme il paraît clairement par plusieurs lieux de l'Évangile, où ils se troublent extraordinairement quand le Seigneur leur prédit qu'il sera mis à mort et qu'il ressuscitera le troisième jour. Il paraît encore, par la demande qu'ils firent au Seigneur à la veille de son ascension, quand ce serait qu'il rétablirait le royaume à Israël, qu'ils entretenaient ce vain préjugé des Juifs que le règne de Christ dut être terrestre avec une gloire charnelle. Le Saint-Esprit étant donc venu le jour de la Pentecôte, purifia leurs âmes par l'efficace de son feu divin et les nettoya de toutes ces opinions grossières et leur fit voir pleinement que le salut du Christ est spirituel et pareillement son royaume et sa gloire. Ce sont les choses que le Seigneur avait à leur dire et qu'il ne pouvait encore porter pendant qu'il était sur terre. Mais le Saint-Esprit étant venu, grava si profondément ces saintes vérités dans leur cœur et y mit une si riche abondance de lumière qu'ils surent toute la doctrine céleste en la perfection et qu'il n'était pas possible de là avant qu'ils tombassent en aucune erreur sur les points de la foi. Il leur donna aussi toutes les parties nécessaires pour illuminer l'univers, leur ôtant ces langues de pécheurs qui bégayaient auparavant dans leur bouche et animaient tant d'autres de feu et de lumière capables d'approprier aux choses spirituelles ces paroles convenables. Et quant à la consolation, vous savez qu'elle il les fit devenir en un instant, comment il essuya leurs larmes et ouvrit dans leur cœur une source de joie céleste si vive et si admirable qu'au milieu des ignominies et des feux et de toutes les choses que les hommes craignent le plus, il ne laissait pas de se réjouir avec un visage aussi gai que celui des hommes à coutume de l'être dans les rencontres les plus heureuses. Ce Pierre, qui avait tremblé à la voix d'une servante, alla hardiment prêcher dans le temple et dans le conseil des sacrificateurs le même Christ qu'il avait renié à leur porte, tant fut puissant en eux la vertu de ce divin consolateur que le Seigneur leur promet. Voilà quel est l'effet du Saint-Esprit à l'égard des apôtres et des autres fidèles à proportion. Considérons maintenant quelle est son œuvre à l'égard du monde, c'est-à-dire, selon le style de l'Écriture, à l'égard de ceux qui, rejetant opiniâtrement la vocation de Dieu, demeurent dans l'ignorance et dans l'infidélité. « Quand il sera venu, dit le Seigneur, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » De péché pour ce qu'il ne croit point en moi, de justice pour ce que je m'en vais à mon Père et vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Il prédit que le Saint-Esprit fera clairement voir au monde la vérité de trois choses qu'il ignore naturellement, qu'il les découvrira si évidemment que le monde n'aura plus de prétexte à alléguer pour s'excuser de ne les avoir pas crus. La première est que rejeter le Seigneur Jésus et ne point croire en lui est un grand et énorme péché. La seconde, que la vraie souveraine justice est celle que Jésus-Christ nous a acquise par sa mort et scellée par son ascension dans le ciel et par son siège à la dextre du Père. La troisième, que la condamnation et la ruine du diable, quand Jésus-Christ l'a vaincu en la croix et nous a délivrés de sa tyrannie, que cet exploit, dis-je, est un grand et divin jugement. Car c'est le diable qu'il entend par le prince du monde, le nommant ainsi en ce lieu et ailleurs encore, à cause de l'empire tyrannique qu'il exerce dans les cœurs des méchants, les abusant par ses illusions et leur faisant exécuter ses volontés, tout ainsi que s'il était leur maître et leur seigneur légitime. Et c'est pour la même raison que l'apôtre l'appelle aussi le Dieu de ce siècle. Et dans l'Épître aux Éphésiens, il nomme tous les démons, en général, les seigneurs du monde et les gouverneurs des ténèbres du siècle. Le monde a bien naturellement quelques connaissances du péché, de la justice et du jugement. Car comme l'expérience nous l'apprend, et comme saint Paul nous en avertit expressément dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, les hommes discernent en quelque façon ces choses par la lumière que Dieu a conservée dans leur nature, toute corrompue qu'elle est. Ils voient bien, et en demeurent d'accord, que voler le bien d'autrui, outrager des hommes innocents, trahir le pays qui nous a mis au monde, souiller nos mains dans le sang de nos citoyens, et tels autres excès sont des péchés. Ils les qualifient ainsi eux-mêmes, et il est à peine aucune nation si barbare et si brutale où ces actions ne soient pas condamnées par le commun jugement des hommes. Ils reconnaissent bien encore quelques formes et quelques idées de justice, car ils donnent ce nom-là à une vie qui se passe dans l'honnêteté, sans faire tort à autrui, rendant à chacun selon les divers liens qui nous unissent plus ou moins étroitement aux hommes, et ils louent extrêmement ceux qui ont l'esprit si gentil, le courage si grand, que de continuer dans ce train sans en sortir jamais, quelque puissantes que soient les occasions qui les y sollicitent. Enfin, ayant appris dans l'école de la nature qu'il y a une souveraine divinité, infiniment bonne, juste, sage et puissante, ils ne peuvent s'empêcher de redouter quelquefois son jugement quand leurs consciences viennent à leur reprocher les fautes qu'ils ont commises, cette conclusion étant nécessaire et inévitable que s'il est un dieu, il hait l'injustice et la méchanceté et ne peut la laisser impunie. Mais bien que la nature leur apprenne ces choses, elle n'a pourtant jamais enseigné à aucun d'eux ces autres vérités de la foi en Jésus-Christ, de la justice de son évangile et de la condamnation du diable par sa croix. Elles sont trop élevées au-dessus de nous pour les pouvoir comprendre par la lumière de nos entendements. Ce sont des choses, comme dit l'apôtre, que l'œil n'a point vues, ni l'oreille entendues, et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Mais Dieu nous les a révélées par son esprit. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Le plus haut point où la raison humaine puisse atteindre par une exacte contemplation de sa propre nature et de la dispensation de Dieu envers nous et de ses œuvres dans le monde, serait de reconnaître par là que ce Dieu dont elle admire la puissance et la sagesse est aussi bénin et patient et qu'encore que nous soyons coupables, il ne veut pourtant pas nous perdre puisqu'il nous supporte et que par sa bonté, il nous conduit à la repentance. Si l'homme n'était pas aussi méchant qu'il est, il pourrait s'élever jusque-là. Encore faut-il confesser que nul n'en est jamais venu si avant, sans l'aide de la révélation de Dieu, tant son cœur est naturellement aveugle et obstiné dans son erreur. Mais de tirer de la simple considération de la nature quelques connaissances, ou même quelques légers soupçons, que Dieu, pour nous sauver, veuille envoyer son Fils au monde, et le vêtir de notre chair, et le livrer à la mort, que dans la foi de ce crucifié consiste la vraie justice des hommes, et que c'est un grand et irrémissible péché de ne pas croire en lui, et que par la croix où il est mort, il dut condamner le diable et ruiner son empire, et que c'est là le grand et terrible jugement de Dieu contre Satan et contre tout son règne, tant s'en faut que ce soit chose possible à l'homme, que les anges mêmes, dont l'intelligence est incomparablement plus pure et plus vive que la nôtre, n'eussent pu en venir à bout. C'est donc que ce que notre Seigneur dit ici, et que le Saint-Esprit mettra en évidence par son avènement. Mais, me direz-vous, lorsque les apôtres reçurent le Consolateur 50 jours après la résurrection du Seigneur, le jour de la Pentecôte, Dieu n'avait-il pas déjà manifesté ces choses ? Les prophètes, premièrement, n'avaient-ils pas annoncé le Christ, son salut, sa justice, la nécessité de croire en lui, le crime et le malheur extrême de ceux qui le rejetaient, la ruine des démons et les jugements que le Messie exercerait sur le serpent mystique en lui brisant la tête ? Saint Jean-Baptiste, n'en avait-il pas parlé encore plus expressément ? Et le Seigneur Jésus, enfin, n'avait-il pas lui-même, par sa prédication, par ses miracles et par la lumière de sa sainteté, clairement vérifié toutes ces choses ? jusque-là qu'il proteste que les Juifs sont inexcusables de l'avoir en haine après avoir vu tant de merveilles. Pourquoi dit-il donc ici que le Consolateur convaincra le monde de ces choses, comme si avant sa venue il n'en eût pas déjà été convaincu? Chers frères, je confesse que les oracles des prophètes, suivis et continués de temps en temps depuis le commencement avec les sermons de Jean-Baptiste et le ministère du Seigneur sur terre, avaient commencé le procès du monde, mais ils n'avaient pourtant pas achevé sa conviction. L'obscurité inévitable dans les prédictions, jusqu'à ce que l'événement les ait éclaircies, fournissait une excuse contre la prédication des prophètes. Ce voile de pauvreté et de bassesse, dont le Seigneur s'était couvert durant les jours de sa chair, diminuait le crime de ceux qui avaient méconnu le Maître habillé en serviteur. Mais l'on ne peut rien alléguer contre la révélation du Saint-Esprit. Ce divin Consolateur ôta au monde tous les prétextes de son infidélité. Il mit le mystère de l'Évangile dans une lumière si pleine qu'il faut désormais que la plus noire et la plus opiniâtre malice demeure muette. Car il ne prédit pas des choses futures comme les prophètes, mais il en annonce qui étaient présentes, faites et accomplies. Il ne montra pas comme Jean-Baptiste le Christ marchant sur la terre sans forme ni apparence, mais immolé pour expier les crimes de l'univers et assis dans les cieux dans une gloire souveraine pour régner éternellement. Il ne prêcha pas comme avait fait le Seigneur Jésus durant les jours de sa chair, la vérité de sa charge en général seulement, retenant diverses choses à dire et laissant encore les esprits en suspens. Il découvrit tous les secrets de Dieu et produisit en lumière toutes les richesses cachées durant tant de siècles dans les abîmes de son conseil. Il justifia clairement, à la vue du ciel et de la terre, que ce Jésus que les Juifs avaient crucifié était le Fils éternel de Dieu, qu'il avait vaincu la mort et ruiné l'enfer, et qu'il s'était relevé du sépulcre, et qu'il était assis sur le trône du Père dans une vie très glorieuse. Car, ô monde, comment le pouvez-vous désormais révoquer en doute, après avoir là-dessus les dépositions de cet esprit et vu les merveilles de ses œuvres? Cet esprit changea en un moment des pécheurs en apôtres. Il leur donna des entendements et des courages d'anges, et des langues qui, en leur simplicité, confondirent toutes les forces de l'univers. Cet esprit donna, en un moment, à des gens grossiers et ignorants, des termes que l'industrie, la nourriture, l'étude ne sauraient jamais donner aux hommes. Il leur apprit toutes les langues du monde, il les remplit d'une connaissance qui n'avait jamais été vue ni entendue entre les hommes. Il les revêtit de toutes les plus hautes vertus, d'une prudence, d'une générosité, d'une pureté, d'une charité, d'une sainteté incomparable. Il les arma d'une force invincible de cœur, à l'épreuve de tous les efforts de la terre et de l'enfer. À leur voix, il chassait les démons, il étonnait les hommes, il changeait les éléments, il guérissait les malades, il illuminait les aveugles, il raffermissait et redressait les boiteux, il ressuscitait les morts. À leur voix, il fit tomber par terre et la superstition des Juifs et les dieux des païens et vint à bout de la puissance des princes, de la fureur des peuples, de l'éloquence des orateurs et de toute la subtilité des sages. Désormais, ô monde, si vous n'ajoutez foi à une révélation si claire et si authentique, il n'y a plus d'excuses ni d'espérance pour vous. Cet esprit vous a fait voir que ne pas croire en Jésus-Christ est vraiment le plus horrible et le plus pernicieux de tous les péchés. Les autres, bien que mortels de leur nature, vous seront pardonnés si vous ne commettez point celui-là. Cet esprit vous a fait voir qu'il n'y a point d'autre justice que celle du Seigneur. Car puisque le Christ, que vous avez crucifié, vit encore après cette mort ignominieuse, et puisqu'il vit dans le sein du Père, reçu entre ses bras, et assis sur son trône avec l'applaudissement de tous les anges, qui ne voit qu'en mourant, il nous a acquis la rémission de nos péchés, la grâce et la faveur du Père, qui est notre vraie justice. Ce même Consolateur vous a fait voir par la prédication et par les exploits des apôtres que le diable est vaincu, que Jésus-Christ en a triomphé sur la croix. Après cela, comment pouvez-vous douter du jugement de Dieu contre ses ennemis? Chers frères, Si le monde méprise cette évidence de la révélation du Saint-Esprit, il en portera quelque jour la peine. Quant à nous, à Dieu ne plaise que nous nous rendions coupables d'un si énorme péché. Car, dit le Seigneur, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne leur sera point pardonné. Qui aura dit parole contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Ceux qui avaient rejeté la prédication du Seigneur Jésus, ses miracles et sa révélation pouvaient encore être sauvés. Parce qu'après la lumière de sa dispensation, il en restait une autre plus grande, à savoir celle du Saint-Esprit, et cela paraît par l'exemple de ceux qui, ayant crucifié le Seigneur, sans avoir été aucunement touchés ni de ses sermons, ni de sa sainteté, ni de ses œuvres, furent convertis par la prédication de Saint-Pierre après la venue du Consolateur. Mais, dit le Seigneur, qui aura dit parole contre le Saint-Esprit, qui aura outragé son témoignage, le tenant pour une fausseté et le prenant pour une imposture, il ne lui sera pardonné ni en ce siècle ni en celui qui est à venir. Parce qu'après la révélation de ce divin docteur, il n'en reste plus aucune autre pour corriger et amender ceux qui auront méprisé la sienne. Sa lumière est le sceau de tous les enseignements de Dieu. Après elle, il n'en faut plus attendre d'autres. Recevons donc la déposition de ce saint et céleste témoin de Dieu avec révérence. Croyons en ce Jésus-Christ qu'il nous a si authentiquement recommandé. Adorons cette admirable justice acquise par sa mort et confirmée par sa résurrection. Embrassons-la et la reconnaissons pour ce qu'elle est véritablement, l'unique justice et l'unique salut des hommes. Recherchons-la et, pour nous en vêtir, dépouillons la notre propre, cherchons, avec l'apôtre, d'être trouvés en Jésus-Christ, ayant non point notre justice, mais celle qui est par la foi de Christ, celle qui est vraiment de Dieu. Philippiens chapitre 3, verset 9. Et nous ouvrir l'entrée du royaume de sa grâce et du sanctuaire de sa gloire. C'est ce que nous signifiait encore ce matin le pain et le vin mystique du Seigneur, nous enseignant que c'est de lui seul, de sa chair crucifiée et de son sang répandu, de sa mort enfin et de sa résurrection, que nous pouvons tirer notre nourriture et notre vie. Que si nous avons cru à la voix du Consolateur, si nous avons mangé la chair et bu le sang et l'esprit de l'agneau de Dieu, ne craignons plus les puissants ennemis, chers frères, le prince du monde a été jugé. La croix de notre Christ lui a brisé la tête. Notre homme fort l'a enchaîné pour jamais, après lui avoir ôté tout ce qu'il possédait injustement. Désormais, cet ennemi n'a plus d'armes ni de force pour nous nuire. Ce même Christ qui l'a vaincu nous garantira de sa rage. Ce même esprit qui a convaincu le monde et qui nous a certifié la victoire de Jésus nous préservera par ses enseignements de toute erreur et séduction et nous maintiendra à jamais en la possession du salut. Car le Père, fléchi par le sang et par les prières du Fils, nous a donné le Consolateur pour demeurer éternellement avec nous. Amen.